La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de cette présentation est « Le divin plan du salut ». Lorsque nous parlons du salut, il nous faut opérer un rapport avec la rédemption. À propos du salut, le psalmiste déclare dans le psaume 106, verset 10, « Il les sauva, Yasha, des mains de l'adversaire et les racheta, Gaal, des mains de l'ennemi. » Et ici, nous avons une déclaration où l'auteur, eh bien, substitue en fait le concept de rachat à celui de salut. En d'autres termes, il les présente comme étant équivalents. Et c'est ce que le prophète Ésaïe a également réalisé en Ésaïe 63 et au verset 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse et l'ange de sa face les a délivrés, Yasha. Lui-même, il les a rachetés, Gaal, dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Dans la Bible, le terme racheté est généralement employé dans le sens 1. De rachat ou de rançon d'une propriété ou d'esclave. Deuxièmement, de libération de la servitude physique ou de la captivité. Et ces deux significations servent en fait d'illustration à la troisième définition ou le troisième sens dans lequel il est employé, c'est-à-dire la rédemption du péché et de la servitude spirituelle. Et c'est ce que le psalmiste déclara dans le psaume 130 et au verset 7 et 8. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et l'apôtre Paul alla dans le même sens en Tite 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu pour le salut, sostérios, de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, sostel, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, l'autre, de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Ici, vous pouvez voir que le concept du salut, okay, est rattaché, du point de vue terminologique, à celui du sauveur, d'accord? Ce qui est lié au fait qu'il rachète, d'accord? Donc, ce sont des termes différents, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, mais qui peuvent être interchangeables, qui sont interchangeables, d'accord, que l'on peut interchanger. La manifestation de la grâce de Dieu pour le salut des hommes est la manifestation de sa gloire pour les racheter de toute iniquité. Le salut et la rédemption sont donc équivalents. Et c'est aussi ce que la messagère exprima dans manuscrit 31, 1911-72. Le merveilleux plan de la rédemption que les êtres humains ne peuvent pas pleinement comprendre montre que le Créateur agit avec justice et qu'il aime la miséricorde. Parce qu'il aimait l'homme, il a donné son Fils en sacrifice pour le péché. le plan du salut fut exposé avant la fondation du monde. Okay? Donc là, nous voyons que l'auteur, tout comme les auteurs de la Bible, eh bien, substitue plan de la rédemption à plan du salut. Ce sont deux termes, deux expressions que l'on peut interchanger. Donc, lorsque nous parlons du plan du salut, il s'agit du plan de la rédemption. Lorsque nous parlons de l'histoire de la rédemption, il s'agit de l'histoire du salut, en d'autres termes. Quel est l'objectif du plan du salut? Nous devons bien comprendre que le plan divin du salut a non seulement pour objectif de racheter l'homme de son péché, mais également de manifester le caractère de Dieu. C'est non seulement ce que la messagère déclara, comme on l'a vu dans cette citation, le merveilleux plan de la rédemption que les êtres humains ne peuvent pas pleinement comprendre, montre, ok, il montre que le Créateur agit avec justice et qu'il aime la miséricorde. Mais c'est également ce que Paul affirma en 2 Timothée 2, 11 à 14, que nous avons lu tout à l'heure. Et là, nous allons souligner quelque chose que nous n'avons pas souligné précédemment. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Epiphaino. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation, Epiphanéa, de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Epiphanéa est la forme nominale du grec epiphaino. Et ce verbe est ailleurs traduit par paraître, mais aussi par éclairer, tel qu'en Luc 1, versets 76 à 79, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer, epiphaino, ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. » L'éclairage est nécessaire afin de chasser les ténèbres. Attendez une minute. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres d'après ce que nous lisons en 1 Jean 1, verset 5. Alors, pourquoi faut-il que son caractère soit mis en lumière par la rédemption de l'homme? Serait-ce en raison du fait que l'on est tenté d'obscurcir son caractère? C'est en tout cas ce que dit la Bible en Genèse 3, et lisons là du verset 1 à 7. Genèse, chapitre 3, et lisons là du verset 1 à 7. « Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. » Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Voilà le récit de l'entrée du péché dans notre monde. De manière assez sélective. Je ne vais pas aller plus loin. Mais on pourrait considérer que cela est le récit de l'entrée, simplement de l'entrée du péché dans notre monde. Okay? Mais le fait que le serpent conduisit l'homme à la désobéissance, eh bien, cela indique que le péché était présent dans l'univers avant la création du monde. En se servant du serpent comme d'un intermédiaire pour s'adresser à Ève, Satan a réussi à remettre en question, dans son esprit, les propos du Créateur. En effet, Dieu avait donné à l'homme un commandement clair. En Genèse 2, versets 16 et 17, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. » Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Mais Ève changea cela en disant, « De peur que vous ne mouriez » au verset 3. « De peur que » implique que jouer avec une telle chose peut être fatal, mais que la fatalité n'est pas obligée d'arriver. Donc, au final, ce n'est pas aussi certain que cela a été déclaré. En plus d'avoir réussi à instiller le doute, Satan a ensuite contesté la véracité des propos de Dieu par un mensonge non dissimulé, en disant que s'il mangeait du fruit, il n'allait pas mourir. Et il poursuivit en accusant Dieu, premièrement, d'être un menteur lorsqu'il déclara que la mort suivrait la consommation du fruit, et deuxièmement, de ne pas vouloir le bonheur de ses créatures, car ce ne serait pas par peur de les voir mourir que Dieu aurait interdit de consommer le fruit de cet arbre, mais plutôt par peur que l'homme devienne un rival de son créateur. Et remarquez ce que nous pouvons observer à partir de cette diapo. Okay? Et ici, vous avez le terme, okay? Le terme qui est traduit par Dieu, okay? Vient de Elohim. Okay? Dans toutes les fois où le mot Dieu apparaît. Okay. Et le même terme traduit par Dieu avec un petit d, I-E-U-X, au verset 5, est le même terme qui est traduit par Dieu, grand D, I-E-U, au verset 1, 3 et 5. Les traducteurs de certaines Bibles, dont la Osterwald, que j'utilise en ce moment même et dans toutes mes prédications, ont ici suivi la Septante et la Vulgate. Mais la traduction correcte est celle de la Darby et de la Louis II. En effet, il est dit « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et dans la Louis II, il nous est dit, Louis II 21, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ces propos de Satan révèlent très clairement le caractère blasphématoire de ce qu'il affirma. Et cela révèle la gravité de la supercherie qu'il a présentée à l'humanité. Satan exprima à Ève les pensées qui étaient dans son cœur avant la création de ce monde. Le désir d'être comme Dieu, semblable à Dieu, est ce qui entraîna la chute de celui qui était autrefois Lucifer. Entendons-nous en Ésaïe 14. Ésaïe, chapitre 14. Et considérons là le verset, du verset 12 au verset 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sous la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sous les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Comme pour Adam et Ève, c'est le désir d'être élevé au rang d'égal à Dieu qui causa la chute de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Vouloir être comme Dieu revenait en fait à contester l'autorité de celui qui seul est comme Dieu, à savoir le Fils de Dieu. C'est lui que le prophète Daniel appela à trois reprises Michaël, c'est-à-dire celui qui est semblable à Dieu. Et c'est ce désir à l'égard de la position du Fils de Dieu qui conduisit Lucifer dans l'état décrit par le prophète Ézéchiel au chapitre 28 de son livre. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans le livre du prophète Ézéchiel et lisons là le chapitre 28 du verset 11 à 15. Ézéchiel 28 et lisons du verset 11 à 15. Ézéchiel 28 verset 11 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Le roi de Tyr n'était pas encore vivant à l'époque où le jardin d'Éden était sur terre. Ces paroles ne peuvent donc que se référer à Lucifer avant la création du monde, et ce même dès la fondation et avant la fondation de ce monde. Lucifer était un chérubin protecteur, d'après ce que nous apprend le prophète Ézéchiel. Exode 25, versets 18 à 22, nous dit qu'il y avait deux chérubins sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance terrestre, laquelle contenait les 10 commandements. Le sanctuaire terrestre étant l'image du céleste, il s'ensuit que Lucifer était en réalité un protecteur de la loi qui est le fondement du trône de Dieu. Mes amis, lorsqu'un policier est destitué, c'est généralement parce qu'il a violé ce qu'il était censé faire respecter, à savoir la loi. Ainsi, Satan fut chassé du ciel parce qu'il avait violé la loi qu'il était censé protéger. Le moment où l'iniquité fut trouvée en lui correspond donc au moment où il cessa de protéger la loi de Dieu. Et j'aimerais que nous pensions à cela un instant. Le péché a pris naissance dans le ciel et non pas sur terre. Et très précisément dans le cœur dans le cœur d'un ange. Ok. Et voyez-vous, cela a de quoi être intéressant pour nous. Car il y a de ceux qui pensent que le péché n'est pas simplement la transgression de la loi, okay, mais va bien plus que cela. Okay. Il y en a qui disent que non, ce n'est pas la transgression de la loi, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtils, comme des serpents, et qui disent que non, ce n'est pas, c'est la transgression de la loi, mais pas que. Okay. Cela s'étend à la nature humaine, la nature déchue. Okay. Et donc, le fait que nous naissions de l'humanité, nous devenons pécheurs. Mais mes amis, Satan n'a pas la nature humaine. Lucifer n'a pas la nature humaine. Et pourtant, il a péché. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que le péché ait pris naissance dans le ciel montre bien, en fait, que le péché est la transgression de la loi, en fait. C'est ça la définition du péché, la seule définition du péché que nous apporte la Bible, en fait. Je ferme cette parenthèse ici. C'est ainsi que Satan a tenté d'obscurcir le caractère de Dieu, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de l'univers. Et c'est pour cela que le plan du salut a non seulement pour objectif de racheter les hommes de leurs péchés, mais également de manifester le caractère de Dieu, le caractère juste de Dieu. En effet, considérons Romains 3, versets 25 et 26. Romains 3, versets 25 et 26. Il est dit, et je rajoute Jésus, et là il est dit, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu, en justifiant celui qui a la foi en Jésus, eh bien, est reconnu juste. Okay? Et c'est notamment afin d'être reconnu juste qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus. Et l'inspiration va dans le même sens. Dans The Sign of the Time, le 13 février 1893, paragraphe 12, à travers le plan du salut, un objectif plus considérable que le salut de l'homme et la rédemption de la terre doit être atteint. Par la révélation du caractère de Dieu en Christ, la bienfaisance du gouvernement divin serait manifestée devant l'univers. L'accusation de Satan serait réfutée, la nature et les conséquences du péché seraient rendues claires et la perpétuité de la loi serait pleinement démontrée. Et il en est de même dans l'ouvrage Jésus-Christ à la page 770, paragraphe 1. Il n'en sera plus ainsi quand le grand conflit sera terminé. Le plan de la rédemption étant alors pleinement réalisé, le caractère de Dieu sera manifesté aux yeux de toutes les intelligences créées. On verra que les préceptes de sa loi sont parfaits et immuables. Le péché aura révélé sa nature, Satan son caractère. L'extermination du péché aura pour effet de justifier l'amour de Dieu et de réhabiliter devant un univers composé d'êtres qui, ayant sa loi dans leur cœur, trouveront leur délice à faire sa volonté. Considérons maintenant l'origine du plan du salut. Le salut n'est pas le résultat d'une réflexion après coup, ni d'une improvisation rendue nécessaire par la tournure inattendue des événements qui eut lieu après l'irruption du péché. Mais il découle plutôt d'un plan établi avant la fondation du monde, comme nous pouvons le lire en 1 Corinthiens 2, verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Et le voyant de Patmos nous dit la même chose, en Apocalypse 13, verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et combien d'êtres, dès la fondation du monde, ont œuvré, ont réfléchi pour que ce plan du salut soit possible? En Zacharie 6, verset 13, nous lisons « Celui-là, à savoir Christ, rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il règnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et il se fera entre les deux, à savoir le Père et le Fils, un dessein de paix. » Le plan du salut, mes amis, a été décidé entre Dieu, entre le seul vrai Dieu, l'être suprême de l'univers, le Très-Haut, et son Fils, Jésus-Christ. Et c'est ce que l'inspiration nous confirme, d'accord? Dans le ministère de la guérison, page 365, paragraphe 4, les anges eux-mêmes ne furent pas autorisés à assister au conseil du Père et du Fils pour élaborer le plan de la rédemption. Et dans Patriarche et Prophète, à la page 42, paragraphe 1, devant le Père, il, à savoir Jésus, plaida la cause du pécheur. Cependant, que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'épreuve. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix. Il sera prêtre sur son trône, et entre les deux, il y aura un conseil de paix. Zacharie 6, verset 13, la version Crampon. En faveur de l'homme, le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. 1 Pierre 1, 19 et 20 et Apocalypse 13, verset 8. Ainsi, il est manifeste que le plan du salut a été établi dès la fondation du monde par Dieu et par son Fils. Et c'est la raison pour laquelle Adam et Ève ne sont pas immédiatement morts après avoir désobéi. Considérons Genèse 3, versets 13 à 15. Genèse 3, versets 13 à 15. « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Après s'être adressé au serpent littéral, Dieu prononça une sentence contre le serpent ancien, à savoir le diable. Et cette sentence, exprimée en un langage prophétique, est un condensé de la controverse entre Christ et Satan. Ce conflit commença au ciel, où Jésus a vaincu Satan. Apocalypse 12, versets 7 à 9, « Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Et ce conflit se poursuivit sur terre, où Jésus a à nouveau vaincu le dragon. En effet, en Hébreux 2, verset 14, « Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Et ce conflit s'achèvera complètement lors de la destruction de Satan à la fin du millénium. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Mais il faut savoir que malgré toutes ces victoires, Christ n'est pas sorti indemne de cette bataille. En effet, les marques de clous, des clous dans ses mains et ses pieds, ainsi que la cicatrice sur son côté, rappelleront à jamais le conflit acharné dans lequel le serpent ancien a meurtri la postérité de la femme. En Jean 20, verset 25, nous lisons, « Les autres disciples lui disent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Okay? Donc, il y avait besoin de toucher pour ce disciple. Et voilà ce qui se dira dans l'éternité. Dans l'éternité, on a le témoignage de l'Écriture que, eh bien, Christ va toujours avoir ses marques, okay? Les marques de cette lutte cruelle avec le dragon. En Zacharie 13, verset 6, « Et quand on lui dira, qu'est-ce que ces blessures à tes mains ? Il répondra, c'est dans la maison de mes amis qu'on me les a faites. » La justice divine exigeait que le péché soit puni. Mais la miséricorde divine avait déjà trouvé un moyen pour racheter l'humanité déchue. Le sacrifice volontaire du Fils de Dieu. Dieu institua le rite des sacrifices pour aider l'homme à comprendre le prix qui allait être payé afin d'expier son péché. L'agneau sans défaut devait donner sa vie pour celle du pécheur et sa peau pour couvrir sa nudité, afin que l'homme puisse toujours se rappeler du Fils de Dieu, qui allait donner sa vie pour expier les péchés de l'homme et dont la justice seule suffirait à couvrir sa nudité. Et nous pouvons, voyez-vous, à travers le sanctuaire, eh bien, marcher avec Jésus. Nous pouvons marcher avec Jésus dans le sanctuaire. Okay? Il y a ce que Jésus est pour nous et il y a ce que nous devons expérimenter à travers la marche du sanctuaire. Okay? Christ, dans le parvis, est l'agneau de Dieu. Ensuite, dans le lieu saint, il est sacrificateur. Okay? Et du moment, effectivement, qu'il entre dans le ciel, il est très précisément souverain sacrificateur. Mais la raison pour laquelle je mets sacrificateur ici, c'est parce que dans le lieu très saint, il endosse encore une fonction particulière qui est celle de juge. D'accord? Il devient juge. Quant à nous, eh bien, ce que le parvis présente a trait à notre justification. Ce qu'il y a dans le lieu saint, cela concerne notre sanctification. Et dans le lieu très saint, eh bien, il s'agit de notre perfection, la perfection de l'homme. Okay? Et nous voyons que Christ a d'abord été notre sacrifice. Okay? Ensuite, il nous a purifiés. D'accord? il est aussi la vérité, d'accord? Ta parole est la vérité, est-il dit. Et il est aussi la lumière, d'accord? Il est la, pour nous la lumière. Et il est aussi celui qui intercède pour nous. Et il œuvre aussi pour le jugement, d'accord? Jugement qui, je le dis rapidement ici, est accompagné et ne va pas sans l'œuvre d'expiation, d'accord? Jugement et expiation sont pile et face dans le très saint du sanctuaire, ok? Il n'y a pas de jugement sans expiation, pas d'expiation sans jugement, ok? Pour nous, eh bien, lorsque nous faisons face au sacrifice du Christ, eh bien, cela nous conduit à la repentance, ok? C'est ce qui est représenté par l'autel des holocaustes. La cuve, eh bien, représente pour nous le baptême, où nous sommes effectivement lavés de nos péchés. Lorsque nous arrivons devant la table des plats de proposition, nous avons là affaire à la parole, okay? La communion avec le Père et le Fils. Okay? Je vous invite à regarder une vidéo que j'ai présentée précédemment, qui s'intitule le trône de Dieu dans le sanctuaire. Et il y a une étude presque consacrée à la table des plats de proposition, où j'ai démontré que, eh bien, il s'agit en fait du trône sous lequel sont le Père et le Fils. C'est pour ça qu'il y a les deux couronnements. Donc, la communion avec le Père et le Fils, et par la parole, okay? Et le chandelier, Christ en nous, d'accord? Christ est la lumière du monde, mais du moment qu'il est en nous, nous devenons alors la lumière du monde. Donc, nous avons un témoignage à rendre, d'accord? Et arriver à l'autel des parfums, okay? Nous avons la vie de prière que nous devons avoir, d'accord? Et dans le lieu très saint, nous avons la perfection, la victoire. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais, et c'est pour cela que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, et voilà, mes amis, comment nous pouvons marcher avec Jésus dans le sanctuaire. La sortie du souverain sacrificateur du lieu très saint correspond au retour du Christ décrit en Apocalypse 14 à partir du verset 14. Or, avant que cet événement ne se produise, Dieu envoie au monde un triple message, dont le premier annonce que le jugement de Dieu est venu. Ce triple message est destiné à préparer un peuple à la rencontre de son Dieu. Les hommes qui n'auront pas suivi Jésus à travers le sanctuaire auront alors une expérience similaire à celle décrite en Ézéchiel, chapitre 18, verset 25 et 29. Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 et 29. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Et lisons et continuons jusqu'au verset 29. Si le juste détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meure, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meure. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix aux maisons d'Israël qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Voilà quelle est l'expérience de ceux qui ne suivent pas Jésus dans le sanctuaire. Ils, par une vie de péché, par une vie dans l'iniquité, ils accusent Dieu. Ils disent que ses voies ne sont pas bien réglées. Ils disent que ses voies ne sont pas justes. Mais telle ne sera pas l'expérience des 144 000 qui auront suivi l'agneau partout où il va et qui auront vaincu la bête et son image, à en croire ce que nous lisons en Apocalypse 15, versets 2 et 3. Apocalypse 15, versets 2 et 3. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des nations. » Là, nous avons effectivement deux catégories, en fait. On a un Israël qui ne suit pas Jésus dans le sanctuaire. Et ça, c'est en Ézéchiel, mais en Apocalypse, on a l'Israël de Dieu, okay? Le véritable Israël, qui lui suit Jésus. Et qu'est-ce que cela a pour résultat? L'opposé de l'Israël qui ne suit pas Jésus dans le sanctuaire. Okay? À savoir qu'il justifie les voies de Dieu. Tandis que l'Israël qui ne suit pas, il suit l'ennemi de nos âmes dans son attitude qu'il avait aussi dans le ciel. Ainsi, les 144 000 auront une expérience dans la justice qui leur permettra de justifier les voies du roi des nations, des accusations que Lucifer, l'ancien chérubin protecteur, porta contre la loi de Dieu. Et il nous faut noter que ce qui viendra parfaire la justification du caractère de Dieu sera que Satan lui-même, et ce avant sa destruction, reconnaîtra que les voies de Dieu ont été et auront été justes. En effet, en Philippiens 2, versets 9 et 10, Philippiens 2, versets 9 et 10, nous lisons là, en Philippiens 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou. La messagère va dans le même sens, dans la tragédie des siècles, à la page 728, paragraphe 1. D'ailleurs, Lucifer voit que sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a employé ses facultés à faire la guerre à Dieu. La pureté, la paix, la concorde du ciel seraient pour lui une suprême torture. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont maintenant, en effet, réduites à néant. L'opprobre qu'il a tenté de jeter sur Jéhovah retombe entièrement sur sa tête. Aussi s'incline-t-il profondément et reconnaît-il la justice de la sentence qui le frappe. Tout comme Pharaon, lorsque Dieu était en train de faire sortir Israël d'Égypte, Satan reconnaîtra que Dieu est juste. Mais cette confession ne sera pas le fruit de l'œuvre du salut dans sa vie, mais dans la vie d'autrui, dans la vie d'autre que lui. Mes amis, Dieu a un plan pour racheter l'homme. Et ce plan sera accompli. Il n'y a pas de doute. Car Lucifer, Satan a déjà été chassé du ciel. Il a été vaincu à la croix. Et il sait qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Le plan du salut sera accompli, soyons-en sûrs. Et Dieu souhaite mener à bien son plan du salut dans la vie de chacun d'entre nous. Mais si Dieu n'arrive pas à mener à bien son plan du salut dans nos vies, comme Satan, nous justifierons alors les voies de Dieu, mais dans nos péchés. Et le souvenir de notre mémoire sera alors effacé pour toujours. Tandis que si nous suivons Jésus dans le sanctuaire, nous le suivons à travers le sanctuaire, nous serons alors du nombre de ceux qui justifieront les voies de Dieu dans la justice et qui auront alors le bonheur immense de passer l'éternité à ses pieds. Quelle voie allons-nous choisir? Quelle application du plan du salut voulons-nous pour nous? Puisse être celle de l'application du plan du salut dans notre vie et non pas dans la vie d'autrui. Okay. Puisse le plan du salut que Dieu a établi avec son Fils dès la fondation du monde nous permettre de bénéficier de la grâce que Dieu a pour nous et nous permettre de réaliser, de reconnaître, de confesser que oui, Dieu est juste et ce, parce qu'il maintient sa justice tout en justifiant le pécheur. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.